Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Alors, fini l'embellie de la semaine dernière avec ses six chroniques. Hein. Aujourd'hui, on va faire souffler le chaud et le froid avec trois films et des reprises. Alors, un de ces films, celui qui va faire souffler le chaud, eh bien, va prendre beaucoup d'écran. C'est La Revanche des crevettes pailletées. Et on a pu rencontrer l'un des réalisateurs et puis un des acteurs. Quant à toi, Manu, ton film est plus confidentiel, je dirais, un peu plus tiède.
Oui, c'est Sous l'aile des anges de A.J. Edwards, un disciple de Terrence Malick.
Et le film choisi par Marine ne sera pas non plus sur beaucoup d'écrans, hein, c'est le film libanais Face à la mer. Et puis pour toi, Guillaume, eh bien, tu as choisi de nous parler non pas d'une ressortie, mais de trois.
C'est ça, de trois exemplaires de ce que la J-Horror a fait de mieux, hein, donc Ring, Darkwater et Audition.
Et si on doit sous-titrer J-Horror, ce sera Japan Horror.
C'est ça.
Ouais. Mais on commence par un film oublié bien avant le confinement, hein, puisqu'il date de 2014, The Better Angels, traduit par Sous l'aile des anges en France. Il est réalisé par un des collaborateurs de Terrence Malick, et le film en emprunte certains tics, hein, et s'attache à nous raconter les jeunes années d'Abraham Lincoln dans une Amérique très dur.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Derrière Sous l'aile des anges, un titre que n'aurait pas renié Wim Wenders période Les ailes du désir, hein, se cache une merveille absolue scandaleusement restée inédite pendant 8 ans, alors que chaque semaine, nous sommes abreuvés de films insignifiants. La beauté à l'état pur serait-elle considérée comme obsolète à une époque où la laideur esthétique l'emporte? Heureusement, l'injustice est aujourd'hui réparée, alors grâce au courageux distributeur ED, sans qui nous n'aurions pas pu découvrir des films, notamment les films de Guy Madin ou de Alex Van Varmerdam. Il est enfin diffusé dans quelques salles art et essai, dont le réseau des réseaux Utopia. A.J. Edwards signe un premier long métrage sous influence écrasante de Terrence Malick, hein, pour qui il a monté certains de ses films, hein, notamment À la merveille. Également producteur, hein, le style unique de l'auteur de La ligne rouge infuse ce faux biopic autour de la figure imposante de Abraham Lincoln. Les premiers plans, hein, majestueux sur le Lincoln mérial, hein, placent le spectateur dans une étrange position, intimidé par le caractère légendaire de la figure d'un président, à qui l'on doit entre autres l'abolition de l'esclavage. Alors cette déification pourrait agacer si elle n'était pas vite balayée par la structure d'un récit à la simplicité édifiante, préférant revenir à la source, c'est-à-dire à l'enfance de Lincoln, loin du mythe du grand politicien. Alors, retour en arrière, dans l'Indiana en 1817, l'Amérique est une jeune nation qui se relève à peine de la Seconde Guerre d'indépendance. Dans ce monde hostile et fascinant, où les hommes et les femmes survivent au cœur d'une nature encore sauvage, A.J. Edwards retrace sur une durée de 3 ans l'enfance d'Abraham Lincoln en auscultant son quotidien à la ferme. Les épreuves traversées par le jeune garçon ne sont jamais explicitées par des réflexions métaphoriques ou philosophiques, en dépit d'une voix off parfois sentencieuse. Néanmoins, cette dernière a le mérite de rester absconse, refusant toute interprétation littérale, ce qui fait plutôt du bien pour une œuvre qui s'écarte du biopic traditionnel, au point que si on n'est pas, on n'a pas lu un synopsis au départ, on ne sait pas tout de suite si c'est, que c'est un biopic sur Lincoln.
Effectivement, je me suis fait complètement avoir, et rétrospectivement, quand j'ai su que c'était la vie du jeune Abraham Lincoln, du coup le film a pris une autre ampleur.
Oui, j'aurais mis un certain temps aussi, hein. Enfin, je pense qu'il faut le savoir au départ, sinon c'est un peu étonnant, quoi. On est un peu plongé directement au cœur de la nature dans une ferme, et puis on accepte les événements comme ça, en fait. Alors, l'inspiration poétique, hein, à la Henri David Thoreau, se mêle à une veine esthétique plus aride, hein, essayant de retrouver un noir et blanc proche des photographies du 19e siècle. La rudesse un peu de la photo est par ailleurs en contradiction assumée, hein, avec la mise en scène aérienne d'une grâce absolue où les jump cuts sont habilement intégrés à la limpidité des mouvements de caméra à la Steadicam. Alors, les plans impressionnants en contre-plongée alternent avec les séquences filmées en grand angle, rappelant aussi, donc, par intermittence, le cinéma de Stanley Kubrick. « À la lisière d'un songe, le style flottant de la réalisation provoque un effet hypnotique et c'est peut-être là la limite du film que l'on en oublie parfois ce que nous raconte en profondeur un film qui s'admire à la surface. Mais ce manque d'incarnation, jusqu'à la présence un peu évanescente des personnages qui ne nous touchent guère, est heureusement compensé par sa forme sublime qui parvient à nous faire ressentir alors l'imposante présence de la nature à travers ses visions telluriques obsédantes, l'immensité des arbres, on a la rivière qui coule, les rochers, toujours sur les roches, toujours une image qui scintille. H.J. Edwards parvient à donner corps à son film à travers un axe narratif certes non linéaire, mais qui propose des pistes intéressantes pour mieux cerner le parcours de Lincoln. La présence des esclaves enchaînés dans la forêt devant son regard médusé, son entrée à l'école et son appétence tout de suite pour les mots et les livres. Son rapport assez fort aussi avec ses parents et sa belle-mère, progressivement, puisque ça ne se fait pas tout de suite. Alors, récit d'apprentissage entre réalisme et onirisme sous l'aile des anges, se différencie peut-être du cinéma de Terrence Malick, parce qu'on y songe quand même beaucoup, beaucoup, par une approche peut-être plus terre-à-terre de l'humanité, plus existentielle que mystique, même si le film est inondé d'images symboliques, nous laissant seul juge pour les interpréter.
À noter aussi la présence d'une voix off qui est quasiment omniprésente.
Elle est quasiment omniprésente. Elle est assez curieuse parce qu'elle est à la fois très explicite et puis un peu étrangère au récit.
On ne sait pas qui parle tout le temps. Oui.
Et puis des comédiens connus, puisqu'il y a entre autres Diane Kruger. Donc c'est un peu curieux de sortir ce film 8 ans après. D'habitude, quand on sort ça, c'est qu'il y a un film du même réalisateur qu'on sort à peu près au même moment. Or, il en a réalisé un deuxième qui est toujours inédit. Et puis il en a réalisé un troisième. Donc peut-être que celui-là sortira enfin en temps et en heure.
Alors intéressant de voir, puisqu'il était chef monteur sur À la merveille de Terrence Malick. Et effectivement, on voit dans ce montage avec des plans qui se succèdent, des plans qui sont coupés.
Cut, comme ça, voilà. Hérité de la nouvelle vague à la base.
Et caméra épaule, on voit le style de Terrence Malick comme on le voit dans À la merveille. Et puis moi, ça m'a fait penser dans toute la partie de Tree of Life, la partie de la famille.
Alors
avec.
Il n'était pas monteur sur ce film.
Non, mais en même temps. Je trouve que là, il y avait cette emprise familiale.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Tree of Life.
Voilà, autant dire que nous recommandons ce film qui malheureusement passe dans très peu de salles, donc Better Angels, sous l'aile des anges en français. Jana revient soudainement à Beyrouth après une longue absence et reprend contact avec la vie familière mais étrange qu'elle avait quittée. C'est Face à la mer de Eli Dagger.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Jana revient soudainement à Beyrouth après être longuement partie vivre à Paris. Elle retrouve son ancienne existence, sa famille, son ancien amant et surtout la ville qui a bien changé depuis son départ, ainsi que les nombreuses désillusions qui la hantent. Face à la mer, malgré son titre français on ne peut plus banal, affiche une vraie singularité. C'est un film sur le retour, ce qui pourrait être un genre d'ailleurs à part entière, avec ce que cela comporte de mystère, d'attente de la part du spectateur. On ne sait pas pourquoi la jeune Jana est partie, quelle est la nature de sa relation avec Adam, pourquoi elle revient, et le film entretient savamment le doute en distillant lentement ses indices. Face à la mer aurait pu s'appeler Beyrouth et ses fantômes, tant la mise en scène fait la part belle à l'aspect fantomatique de la ville. Jana et Adam déambulant dans un Beyrouth nocturne et désert, en voiture, à pied ou en scooter. Au travers de l'évolution du territoire, de l'urbanisme, il est bien évidemment question du passé tumultueux du Liban et notamment de la guerre civile qui fit rage entre 75 et 90, une guerre dont l'une des principales batailles fut la bataille des hôtels qui vit des combattants se retrancher dans des complexes hôteliers du centre-ville et s'y affronter. Aujourd'hui, l'architecture et son évolution avec la construction de nombreux immeubles bouchent de plus en plus la vue sur la mer, donc l'horizon est symboliquement la possibilité d'entrevoir un futur. Une mer qui est de plus en plus polluée au point que l'on ne peut plus s'y baigner, détruisant peu à peu le lien ancestral entre cette ville portuaire et la Méditerranée à laquelle elle est liée depuis toujours.
قال لك ما كرهتك ولا
تسيسي انا بعرف قلت لك شو عامله.
Face à la mer est le premier long métrage du cinéaste et artiste libanais Eli Dagger, palme d'or du meilleur court métrage pour Waves 98 à Cannes en 2015, qui mêle dans son œuvre fiction et éléments documentaires. La jeune comédienne Manal Issa, qui interprète Jana, porte quant à elle le film sur ses épaules, tout en fièvre intérieure. Et si l'on découvre Beyrouth à travers ses yeux, on apprend également à connaître son propre passé et ses tumultes au cours d'une longue introspection. Le destin du personnage étant bien sûr intimement lié à celui de la ville. Mana Lisa, actrice franco-libanaise que l'on a découverte dans Peur de rien de Daniel Arbid et que l'on a vue récemment dans The Memory Box, un film qui fait écho à Face à la mer puisqu'elle y interprétait une jeune femme aux prises avec son passé libanais et la tentation d'aller de l'avant en oubliant ses souvenirs. Le film est extrêmement contemplatif, hein. Les plans sont souvent très longs, le rythme est parfois presque apathique, mais il permet aux spectateurs de glisser dans une sorte de rêverie similaire à celle des personnages. Les plans accompagnés d'une BO à base de nappes, de sons électroniques, sont aussi poétiques qu'inquiétants, d'autant que la menace d'une vague immense plane sur la ville. On ne sait jamais si celle-ci est réelle ou symbolique, de même que l'on ne saura jamais hein, si l'amant de Jana est réel ou un simple souvenir, tant le passé et le présent s'entrelacent. Face à la mer, c'est l'histoire d'un impossible retour, d'une impossible guérison, tout comme la ville tente un impossible retour à la vie, puisque l'on sait que Beyrouth, après une pénible reconstruction, sera en partie détruite par la gigantesque explosion de l'été 2020.
Face à la mer est en salle depuis le 13 avril. Allez, on retrouve maintenant l'équipe de Waterpolo Gay, des crevettes pailletées, pour un deuxième opus baptisé La Revanche. C'est l'interview de Cinérama.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Ceux qui avaient apprécié les crevettes pailletées sorties il y a 3 ans peuvent se tenir prêts pour ce second opus qu'on n'attendait pas forcément après le 500 000 d'entrées du premier volet. La suite est maintenant sur les écrans et transforme le Feel Good Movie en film d'action noué d'un drame. Alors dans le premier volet, Cédric Le Gallo et Maxime Govard nous racontaient l'histoire d'une équipe de water polo composée de gays qui devait se rendre aux Gay Games et davantage motivés pour faire la fête et une bonne chorégraphie que pour la gagne. Alors ce n'était pas gagné pour leur entraîneur, un certain Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, et celui-ci était bombardé au poste d'entraîneur pour purger une peine suite à des propos homophobes. Évidemment, dépassant ses préjugés, l'entraîneur apprenait beaucoup sur lui et comment juger les autres sur leur orientation sexuelle, c'était mal. On pouvait voir quelques qualités à cette comédie qui s'appuyait sur les clichés à l'égard des homosexuels pour mieux les enfoncer. Alors, changement de décor pour le second volet des aventures des crevettes pailletées. Après les Gay Games en Croatie, elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo. Alors, ils font le trajet en prenant les prix les moins chers, ce qui occasionne une longue escale à Moscou, qui n'est pas le pays le plus gay-friendly, mais qui a tout de même, de l'aveu du réalisateur Cédric Le Gallo, un potentiel.
On s'amuse aussi de cette imagerie soviétique, extrêmement virile, mais aussi extrêmement homo-érotique, de culte du corps. Ouais. On le voyait partout, d'ailleurs, quand on allait dans une ville, il y a toujours des très grandes fresques, avec des gens très musclés, cette espèce de culte de la virilité qui est presque suspecte. La même imagerie qu'on voit dans les barguets, quoi.
Et on pourrait parler aussi de Vladimir Poutine torse nu. Nous sommes donc avec l'équipe de water polo à Moscou, dans un pays où les membres sont menacés. Là se joue l'enjeu du film d'action qu'on nous propose, car nous serons témoins de l'acharnement des autorités à vouloir traiter l'homosexualité comme une maladie mentale, alors ce qui n'est plus le cas quand même depuis 1999. Il va s'agir de libérer ceux qui s'y trouvent enfermés. Donc, alors comédie, action, il manque le drame, il est apporté par une nouvelle recrue. L'entraîneur a engagé Selim, jeune homme des quartiers taillé pour la compétition, qui, selon ce que lui a dit sa fille, refoule son homosexualité et effectivement il refuse de s'associer à ce groupe déluré. Avec ce personnage, les réalisateurs placent en hors-champ tout le contexte des quartiers populaires et nous voilà donc en Russie. Le glissement à l'intérieur de tous ces registres s'effectue sans trop de mal. L'humour, qui tient beaucoup aux situations découlant des différences entre tous les membres de l'équipe, joue à plein régime. On est sur le feel-good movie, ce qui rend le fil dramatique un peu surfait ou artificiel. Bon, c'est peut-être là que le film pêche un peu. On écoute Cédric Le Gallo et Nicolas Gobbe qui jouent l'entraîneur. Alors, il y avait aussi Roland Menou qui est le militant de la cause homosexuelle de la première heure et Bilal El Atrebi qui joue Selim. Mais voilà, j'ai retenu simplement le réalisateur et l'entraîneur donc, de ce film. La revanche des crevettes pailletées.
C'est ce qui est intéressant avec les crevettes, c'est que c'est une bande assez hétérogène. C'est-à-dire qu'ils partagent globalement les mêmes idées. Ils ne sont pas forcément tout le temps d'accord sur tout, même plutôt sur rien. Mais c'est leur différence. Personne n'a vraiment le même âge, vient vraiment du même milieu. Leur point commun, c'est qu'ils sont gays et qu'ils font du water polo.
Je vous présente le super joueur dont je vous ai parlé, Selim.
Salut.
Céline, je te présente les crevettes.
Les crevettes?
Parce que dans les crevettes, le meilleur, c'est
la tête. La tête, et avec les paillettes, c'est ouh, yeah, c'est la fête. Voilà, merci Damien.
C'est vrai que dans l'histoire du cinéma, il y a des suites qui sont formidables et d'autres qui sont complètement ratées. Donc on a tous été déçus par une suite une fois dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il fallait surtout pas faire un copier-coller. Et le premier film n'avait pas été pensé pour avoir une suite au départ. Et on n'aurait jamais imaginé l'engouement autour de ce film. Et puis il y a eu une petite étincelle, c'est quand, lors de la promotion du premier film il y a 3 ans, j'avais fait la couverture du magazine L'Équipe avec un de mes camarades du waterpolo, avec un baiser homosexuel qui a beaucoup fait parler, puisque L'Équipe était le premier magazine au monde, le magazine sportif, à oser une homosexuelle comme celle-ci. Et le magazine est arrivé jusqu'au bureau de la patronne d'Universal Monde, qui a tout de suite appelé son homologue français, Xavier Albert, en lui disant « J'espère que la suite est en route ». Et il a dit « Mais oui, bien sûr ». Et là, c'est vrai que c'est génial d'avoir un studio comme Universal qui nous dit « Faites ce que vous voulez ». Et avec Maxime et Romain, mes deux co-auteurs, on a saisi cette perche pour justement aborder tous les sujets qu'on voulait, et donc des sujets sérieux, puisqu'on parle d'homophobie en Russie, notamment. Mais avec l'humour des crevettes, avec la folie des crevettes, l'idée, c'était de pousser tous les curseurs, à la fois l'humour, la réalisation et aussi les sujets de société.
Moi, je t'ai serré, là, tes potes, on dirait tous dégués.
C'est un peu le concept de L'Équipe, oui.
Et moi, tu m'appelles.
Hey, on n'est pas là pour se massacrer, hein.
On va faire comment pour gagner des matchs?
Tu lui as bien dit que tu l'emmenais au Gay Games.
C'est juste une équipe de waterpolo en transit pour Tokyo sans aucune intention de nuire à votre pays.
Ici, l'homophobie, c'est un sport national. On se met en mode furtif, d'accord?
Quelle chance d'être né avec si peu de couilles.
On a changé de genre. Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec une suite, c'est de pouvoir garder l'ADN des crevettes, les personnages, l'humour, la folie, et puis amener notre histoire ailleurs. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, ils sont moins tout le temps ensemble. Ce qui permet aussi à nous, auteurs, de d'aller un peu plus loin dans leurs intrigues personnelles, et à eux, acteurs, aussi d'avoir plus de place pour s'exprimer.
Faut appeler les flics. Avec Damien, on est tombé dans un guet-apens.
I love the grinder!
The king's the gay! Yeah!
Vous les avez arrêtés parce qu'ils sont gays?
Ils ont encore fait n'importe quoi.
Toi, j'étais bien foutu de ma gueule.
Attends.
Ça me l'entend de vous, merde. Je pars comme vous.
Pourquoi vous avez si peur de nous? Qu'est-ce qu'il y a de si anormal à ce que deux personnes du même sexe s'aiment physiquement?
J'ai jamais demandé à être différent.
J'en peux plus, moi, de cette obsession de créer sa différence alors que tout ce qu'on veut, c'est être comme tout le monde.
L'idée, en tout cas, c'était de les emmener dans une contrée un peu hostile. Alors, on avait pensé à un moment donné au Brésil de Bolsonaro. Et puis après, ça s'est imposé la Russie, puisqu'on s'est dit, pour faire un film différent, le premier était au soleil, le deuxième devrait plutôt être en hiver, sous la neige. Et donc la Russie cochait toutes les cases de la terre hostile pour notre bande de crevettes. Puis on s'amuse aussi de cette imagerie soviétique, extrêmement virile, mais aussi extrêmement homo-érotique. C'est ça qui est drôle dans ces... Ouais, exactement.
Ça vous dérange pas un hétéro dans L'Équipe?
Mais non, c'est cool. T'es notre quota.
Oui, merci. Non, mais je voulais dire s'il y en avait d'autres.
Ah mais non, faut pas abuser quand même.
Attends, pourquoi tu demandes? Non, mais comme ça, je suis curieux et tout.
Un hétéro, ça va, mais dès qu'il y en a plusieurs, ça devient compliqué.
Ouais, après tout devient beauf et compétitif.
Comme le foot.
Mais attendez, c'est pas ultra discriminant ce que vous dites là?
Non, la discrimination, c'est quand une majorité écarte une minorité.
Là, c'est de la préservation.
C'est même de la sauvegarde.
Bon, imaginons, un type que vous connaissez pas intègre l'équipe, vous faites quoi? Vous lui demandez s'il est gay ou pas?
Quoi? Non, ça va pas, c'est super intrusif.
Et déplacé?
C'est très très déplacé même. Ok, et comment vous sauriez s'il est gay alors?
Bah avec le guédard.
Ah non, pas ce mot, s'il te plaît.
Qu'est-ce que c'est encore ça, le guédard?
Les dauphins, ils ont un sonar.
Les militaires, ils ont un radar.
Bah, nous, on a le guédard.
N'importe quoi, mais...
C'est un truc que je me suis signifié après, en fait. C'est une fois que le premier était terminé, je me suis rendu compte que c'était potentiellement le personnage qui pouvait amener les gens à se poser des questions et tout. J'avais pas forcément intégré le truc comme ça en faisant. Et donc, en faisant le 2... Le personnage accompagne le nouveau spectateur à continuer le trajet, en fait.
T'aimes le rap, alors? Tu m'as dit quoi? Tu aimes le rap?
Bah ouais.
C'est cool. Et t'aimes aussi les trucs... un peu plus pop ou...
Pop?
Oui, plus mélodique, tu vois.
Genre Booba.
Oui, Booba ou Céline Dion.
Dans l'ADN des crevettes, il y a la notion de voyage, c'est-à-dire que on voyage pour aller faire des tournois. Et en même temps, c'est important pour nous de raconter cette homosexualité en banlieue qui est difficile à assumer. Et le petit nouveau qu'incarne Bilal, qui s'appelle Selim dans le film, porte ça en lui. On n'est pas, le film ne se passe pas en banlieue, mais à travers son personnage, ça nous permet de raconter ça.
Non, on n'est pas James Bond,
qui pourtant est gay.
James Bond, il est pas gay, excuse-moi, mais...
Bah si, tout le monde le sait, hein.
Mais non, de toute façon, avec vous, tout le monde est gay.
Bah oui. Hein.
C'était Cédric Le Gallo et Nicolas Gob pour le film La Revanche des Crevettes Pailletées qui est en salle depuis le 13 avril. Trois films emblématiques de la G-Horror, Japan Horror, sont restaurés en 4K et de nouveau dans les salles, c'est Ring et Darkwater de Hideo Nakata ainsi que Audition de Takashi Miike.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait, judicieux, simple. Logique.
The Joker se propose cette semaine un voyage dans le temps qui rappellera peut-être à beaucoup d'entre vous quelques terreurs qui, il y a 20 ans, changèrent la face de l'horreur dans le monde plutôt cloisonné du cinéma de genre occidental. Si la production et diversité du cinéma fantastique, d'horreur ou tout simplement d'épouvante est aussi vieux au Japon que le 7e art lui-même, il faut bien se remémorer que le grand public ne le connaissait que très mal, voire très peu, si l'on met de côté les kaiju Eiga, les films de monstres comme Godzilla ou Gamera. Et pourtant, qui dit frisson nippon, dit frisson fécond, tant la vague qui va être amenée par l'incroyable succès planétaire de Ring va connaître suite, décalque, remake et même un épisode mettant en scène le fantôme du film qui ira se battre contre un autre fantôme célèbre, celui de Ju-On, plus connu chez nous sous le nom de The Grudge. Tout ce mouvement va se retrouver désigné et étiqueté sous le label générique de J-Horror, soit l'horreur à la japonaise. Les trois titres que The Joker redistribue dès aujourd'hui dans les salles et en version 4K, à savoir Ring, Audition et Darkwater, dans leur ordre de sortie initiale, vont prouver et surtout rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire du genre à la japonaise. Il s'agit, comme en Occident, de la bonne exploration d'une mythologie adaptée au quotidien de son époque et par-dessus de l'expression de la sensibilité d'un auteur à la patte qui sera capitale pour la bonne tenue du long métrage.
Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur cette cassette ?
Il paraît qu'une femme terrifiante surgit tout à coup et d'une voix étrange nous dit « Tu seras mort dans 7 jours ». En tout cas, c'est ce qu'on raconte.
On m'a dit que c'était diffusé très tard dans la nuit. Ensuite, le téléphone sonne et on est cuit.
Tard dans la nuit ? Et tu sais sur quelle chaîne ?
Oh, sur une chaîne locale, je crois. On dit que ça vient de la péninsule d'Izu.
Izu, tu es sûre ? À votre connaissance, quelqu'un est-il mort 7 jours après avoir vu cette vidéo ?
Nous, on connaît personne, mais elle, elle connaît.
Vas-y.
Une fille que je connais m'a dit qu'une autre fille qui avait vu la cassette était morte avec son petit ami dans une voiture.
Un accident ?
Oh non, la voiture était bien garée sur le côté. La vidéo, lui aussi, il l'avait vue. Il y a eu un article dans le journal la semaine dernière.
Saurais-tu me dire le nom de leur lycée ?
Je sais pas du tout d'où ils étaient.
Comme on l'a dit, Ring est donc celui par qui tout est arrivé en 98, prenant de surprise un monde arrivant à la fin d'un millénaire qui était initialement plus tourné vers le bug de l'an 2000, les univers mensongers de Dark City d'Alex Proyas et Matrix des Wachowski et les prophéties démoniaques comme La fin des temps de Peter Iams ou La 9e porte de Roman Polanski. Ce sera donc une petite fille aux cheveux sales, Sadako, qui va faire figure de croque-mitaine New Age. À Tokyo, une rumeur se répand parmi les adolescents. Visionner une cassette mystérieuse provoquerait une mort certaine au bout d'une semaine. Alors après le décès inexplicable de sa nièce, une journaliste décide de mener l'enquête mais se retrouve elle-même sous le coup de la malédiction. Pendant les 7 jours qui lui restent à vivre, elle devra remonter à l'origine de la vidéo fatale et affronter le spectre qui hante toutes les télévisions, Sadako. Ring donc est adapté des livres de Koji Suzuki qui sont bien différents car Suzuki utilise quasiment tout le temps la science pour parler du mal. Ainsi, Sadako a certes des pouvoirs paranormaux, mais elle et sa malédiction sont décrites et combattues à longueur de page comme un virus implacable, ce qui ne manquera pas de piquant à l'heure actuelle. L'ombre pesante d'une bactérie démoniaque, son mode de fonctionnement, son but est de toucher le plus de monde, et la manière de la combattre, il faut casser la chaîne pour l'arrêter, ne manque pas de sel. Il est même question dans le troisième tome d'informatique politiciens victimes de cette contagion. Alors oui, Hideo Nakata a sûrement bien fait hein, d'aller dans un aspect plus visuel pour ses adaptations, parce que rien n'est plus métaphorique et cinématographique qu'un monstre, bah, compte tenu du média différent, mais l'univers de base, moins graphique et plus mental, vaut vraiment le détour depuis. Si Ring hein, a su plaire hein, à tout le monde, hein, c'est bien parce qu'il a su faire un grand écart entre traditionnalisme, roman à l'intrigue purement littéraire, et mise en scène plus universelle qui a compris qu'elle avait besoin d'un monstre, qui allait faire la gloire de ce qui allait devenir une saga culte. A ce titre, la scène d'introduction mixe le meilleur des deux mondes, hein, tout en naviguant dans une architecture et distillant un décompte du temps et des réactions purement japonais. Sa construction bah, fait également très fortement penser à l'intro choc de Scream de Wes Craven, autre révolution dans le genre sortie en 96. Takashi Miike, lui, va faire comprendre d'entrée qu'il est différent des autres et un électron libre dans ce renouveau nippon. L'un des réalisateurs japonais, pour ne pas dire mondiaux, les plus prolifiques de ces 20 dernières années, allait lui aussi exploser sur la scène internationale avec cette autre adaptation de roman. Mêlant satire sociale, drame humain, reluquant d'un certain côté vers le cinéma de Marco Ferreri pour mieux anticiper le torture porn du milieu des années 2000 avec Saw et Hostel, Audition raconte l'histoire d'un producteur de films, veuf depuis 7 ans, qui accepte sur les conseils de son collègue d'organiser une audition pour un film imaginaire afin de trouver une nouvelle épouse. Il déniche la perle rare à la personne d'Azami, hein, une jeune femme douce et intelligente dont il tombe aussitôt amoureux et, sans lui révéler son subterfuge, commence à entretenir une relation avec elle. Mais derrière le visage de la perfection va se cacher quelque chose de plus dangereux, de plus sombre, de plus terrible, et qui va se nourrir du désespoir affectif d'un homme pour mieux le broyer avec.
Kili. Ça fait mal? Les mots mentent. Seule la souffrance dit la vérité. N'est-ce pas? Quand ça fait mal, on apprend à connaître la forme de son corps. Kili. Dans l'abdomen, c'est là le plus douloureux.
Alors, catalogué film fantastique japonais par défaut, hein, alors qu'il relève plus du film de serial killer, du thriller, voire même du film d'horreur tout court, Audition ne rate quand même pas l'occasion de faire un clin d'œil à Ring le temps d'une séquence, en positionnant son héroïne par terre, totalement immobile, les cheveux noirs longs hein, devant son visage, soit ben, l'exacte position habituelle de Sadako pour attaquer ses victimes. Audition sera à ce jour ben, le seul film de cette vague à ne pas bénéficier d'une suite ou d'un remake, ce qui souligne probablement cette originalité, justement, dans cette vague.
Quand j'y pense, cette fillette-là aussi avait un comportement étrange. Mais dans le cas de Mitsuko, c'était particulier. Sa mère l'avait abandonnée, du jour au lendemain, elle avait disparu sans crier gare. Vous avez dû en entendre parler, cette fameuse fillette, celle qui a été portée disparue il y a 2 ans. Kawai Mitsuko, c'était une de nos élèves.
Et maintenant, est-ce qu'on est toujours sans nouvelles d'elle?
Oui. Moi, personnellement, j'ai toujours été persuadé qu'elle avait été kidnappée par un pervers.
Et donc, ouais, en parlant de vague, bah, Darkwater, qui voit revenir Hideo Nakata de Ring derrière la caméra, bah, lui va s'intéresser à la confrontation entre une mère esselée et d'étranges écoulements d'eau dans l'immeuble dans lequel elle et sa fille viennent d'aménager. Alors, comme on ne change pas une formule qui gagne, Darkwater s'inspire de la nouvelle L'eau flottante de bah, Koji Suzuki, l'auteur des Livering, et voit revenir une bonne partie de l'équipe technique, bah, dont le brillant compositeur Kenji Kawai. Alors, même si l'épouvante prend bien évidemment le dessus, Darkwater n'en oublie pas les fondements des bons récits populaires, en partant d'abord d'un drame familial et social pour mieux ancrer le fantastique dans une réalité tangible qui parlera au plus grand nombre. A son tour, c'est une très grande réussite qui signera paradoxalement en 2003 ben, la fin de l'âge d'or de cette nouvelle vague japonaise. Alors au-delà des remakes japonais, hein, il y aura une vague de remakes américains qui supplantera chez le grand public cette originalité venue d'Asie. Mais ces restaurations et ces ressorties arrivent à point ben, pour rappeler qu'en ces temps de franchise surexploitée, ben, rien ne vaut le goût d'origine.
Donc ces trois films, Ring, Darkwater et Audition, sont visibles dans certaines salles qui ont décidé de les reprogrammer.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
on se retrouve la semaine prochaine avec évidemment des films. Marine nous parlera de Comet et du secret de la cité, fort attendu. Et toi, Manu ?
Eh bien, ce sera un documentaire d'animation sur la Russie et la Lettonie. C'est d'actualité, qui s'appelle My Favorite War.
Et nous aurons vu Vortex. À la semaine prochaine.